Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé », proposé par Les Échos. Elles ont osé, et cela a tout changé, pour elles et autour d'elles, grâce à leur impact. Chaque mois, dans ce podcast, notre invitée partage les moments clés de son chemin pour aller toujours plus loin, être à sa juste place, guidée par son envie de contribuer à un monde meilleur. Elle met également en lumière une femme inspirante dont le portrait sera brossé par Yves Villaginès, journaliste aux Échos. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires, pour créer son entreprise, de Bouge ta boîte, réseau business féminin, et Bouge ton groupe, pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Si comme moi, ces échanges vous donnent des ailes, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast sur les réseaux pour inspirer le plus grand nombre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Aude Guo. Bonjour Aude.
Bonjour Marie.
Alors vous êtes la cofondatrice de InnovaFeed, entreprise de biotechnologie qui produit des nutriments à base d'insectes pour la nutrition animale et la nutrition des sols. Vos usines d'insectes sont les plus grandes au monde et ont l'ambition de révolutionner l'alimentation animale des poissons, des poulets, des porcs, des animaux de compagnie et ainsi de contribuer à diminuer leur empreinte carbone qui est très importante. Aujourd'hui, InnovaFeed, c'est 350 collaborateurs, deux usines en France, une usine en démarrage aux États-Unis. Et en tout, vous avez levé la somme colossale de 450 millions d'euros. Et vous faites partie des entreprises responsables certifiées B Corp. Aude Guo, vous êtes une citoyenne du monde, puisque vous êtes née à Pékin, en Chine, de parents ingénieurs. Quand vous avez 6 ans, ils partent l'un puis l'autre en France, puis au Québec, où vous les rejoignez à l'âge de 9 ans. Vous découvrez donc un tout autre monde, puis vous devez à nouveau vous réadapter, car à 11 ans, vous arrivez en France. En quelques années, vous avez donc été en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et à chaque fois sans parler la langue. Comment ça se passe? Quels sont vos souvenirs marquants de vous arriver à la fois au Québec puis en France?
Moi, donc, je suis arrivée en effet au Québec à 9 ans. Ben, je pense que c'est des moments de rupture, quoi. Et quand tu dis citoyenne du monde, je me rends compte que ma vie, c'était beaucoup de ruptures dans mon enfance. Mais au final, ça fait plus de 25 ans que j'habite en France et j'ai pas bougé depuis. Parce qu'il y a eu peut-être une compensation à un moment donné. Mais donc j'arrive au Québec à l'âge de 9 ans. Bon, c'était une rupture assez forte puisque la Chine des années 90, moi je suis née à Pékin, j'ai grandi à Pékin, elle a rien à voir avec l'Amérique du Nord, quoi. Enfin, c'était vraiment deux mondes très opposés. J'ai une enfance très typique, donc j'étais très typique, une pékinoise vraiment, enfin, rien de plus normal, quoi. Mais ce côté où, enfin, on se pose pas trop de questions sur le monde qui nous entoure, quoi. Et j'arrive au Québec et j'étais dans une école anglophone, donc j'étais dans un environnement plutôt anglo-saxon. On se découvre pas très attendu, quoi. Enfin, on bascule dans un monde où, en fait, on est un peu personne, quoi. Enfin, et quelque chose de pas normal, en tout cas.
Vous aviez les codes parfaits en Chine et tout a dû basculer en arrivant au
ouais.
Québec, c'est ça?
Et je pense que, en fait, quand on a tous les codes, on se pose pas de questions qu'il y a des codes. En fait, on se dit, le monde, il est comme il est, quoi. Puis par contre, quand je suis arrivée au Québec, très vite, on a dû se poser des questions, en fait, sur, ah, mais tous mes réflexes, n'ont pas de valeur ici et bah, comment je fais pour en fait vivre dans une société, ça demande d'acquérir des codes, quoi. Donc on prend conscience qu'il y en a parce qu'on les a pas et il faut tout réapprendre. Et moi j'ai eu la chance d'être dans une école qui était très ouverte. Et je pense que l'Amérique du Nord, on sent que enfin c'est un lieu d'accueil, quoi. À l'entrée de mon école, le logo de l'école, c'était deux personnes qui se tenaient la main, de couleurs différentes en plus, et la devise c'était I like you, you're different.
Je t'aime parce que tu es différent.
Et donc je pense que j'ai eu une chance incroyable de tomber dans un monde qui était certes très différent, mais qui était quand même dans l'accueil, en fait. Et donc, apprendre ces nouveaux codes, c'était pas hostile pour moi, quoi.
Et là, cette fois, c'est en français. Et quel est votre souvenir de ce moment d'arrivée en France ou dans l'école? Quel est le souvenir où vous vous êtes dit « ouch » ?
Je pense que c'est perte de repères, mais ce à quoi je m'attendais, mais de pas pouvoir s'accrocher à de nouveaux repères, quoi. Mais cette sensation de « ah, en fait, je sais pas par quel bout prendre ». Ce nouveau monde-là, la nouvelle langue, les nouvelles dynamiques sociales, enfin, et qu'il y a un peu tout à recommencer, et que c'était plus dur que la première fois.
Et ça vous a donné une force, j'imagine, de devoir vous réadapter, de vous réinventer à chaque fois. C'est-à-dire que vous êtes capable de passer dans tous les milieux, vous le constatez ça aujourd'hui?
Alors je pense que oui, je pense qu'on est plus adaptable. Je ne sais pas si c'est la force qui vous guide ou juste l'instinct de survie, quoi. peut-être un peu des deux, mais je pense que quand on est enfant, on ne se pose pas toutes ces questions-là. On dit juste, en fait, il faut que je trouve une manière de comprendre la langue. Du coup, les réflexes qu'on adopte, c'est en fait très vite, il faut que j'apprenne à nager ou à surnager. Enfin, bah, parce que c'est trop pénible sinon de pas comprendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, ça m'a donné une adaptabilité, déjà une prise de conscience que les réalités peuvent être très différentes, que les milieux, chaque milieu, c'est toujours des codes à acquérir. Donc, il faut aller les comprendre vite. Il y a des règles différentes partout. Comprendre ces règles avant tout.
Avec le sentiment d'être un peu en dehors d'eux, ou le sentiment d'être totalement dans, intégré?
Je me suis toujours vue un peu comme un outsider, et donc toujours avec cette sensation de presque d'y participer, mais de se regarder participer, quoi. Enfin, d'être pas toujours complètement dedans, avec des bons côtés et des mauvais côtés, quoi. Mais je pense que ce que ça m'a appris, c'est qu'on n'est pas attendu nulle part. Il n'y a pas de réalité qui est évidente en tant que telle, qui est la réalité, quoi. Il y a toujours des choses multiples. Et en fait, je trouve que... Alors, ça a été pas toujours simple quand on est outsider, parce qu'on a envie d'appartenir, on a envie d'intégrer. Mais je pense au fil du temps, ça m'a aussi pas mal libérée, en fait, de se dire, bah, quand on n'est pas attendu...
On peut être soi-même.
Mais exactement. En fait, quand personne vous attend, mais du coup, vous n'avez pas non plus la pression d'agir comme ce qu'on s'attend à ce que vous agissez, quoi. Enfin,
en fait, vous aviez une vision du monde tellement différente, enfin, des points de vue tellement différents du monde... qu'il n'y avait pas une seule réalité comme on peut le vivre enfant quand on grandit au même endroit.
Ouais.
Et du coup, cette liberté de se dire, mais de toute façon, comme il n'y a pas une seule réalité, je peux être moi-même
et
différente.
En fait, c'est la seule chose qu'on sait faire. Et donc, vu que tout le reste, on le ferait forcément moins bien que ceux qui ont les codes, ceux qui sont là depuis très longtemps.
Bah, autant, en fait, être soi-même.
Autant être soi-même. Finalement, c'est assez libérateur.
C'est un vrai parallèle avec les femmes dans l'économie, dans le monde économique, puisqu'en fait, tout le monde économique a été construit depuis toujours uniquement par les hommes, et ça fait que très récemment que les femmes commencent à prendre leur place. Et donc, finalement, nous, les femmes, on était un peu outsiders dans le monde économique. Donc, soit effectivement, on s'adaptait en prenant les codes qui étaient là existants, soit, et c'est ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui, notamment dans l'entrepreneuriat, bah, la meilleure solution, c'est d'être soi-même.
Absolument.
Et c'est là où on est le plus puissant, puisque de toute façon, les codes, on ne peut pas les rattraper et ce ne sont pas vraiment les nôtres.
Quand j'étais plus jeune, mon côté étranger couvrait les sujets homme-femme, enfin, le fait d'être une fille, quoi. Ça, moi, je l'ai moins senti quand j'étais au collège. Une des choses qui me limitait le plus, où je me sentais le plus étrangère, c'était en français. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte, alors très tardivement, hein, mais quand j'ai commencé à travailler et que je commençais à évoluer de nouveau dans les milieux très internationaux, je me suis rendu compte que, en fait, autour de moi, il y avait plein de gens qui parlaient des langues qui n'étaient pas leur langue maternelle, qui n'étaient pas du tout complexés par toutes les fautes qu'ils faisaient et pour qui ça se passait très bien. Et la deuxième chose, c'est que je me rendais compte chaque fois que je débarquais dans un aéroport, alors qu'au bout d'un moment, je maîtrisais suffisamment bien la langue, etc. Le moment où je pose pied, on switch et on parle en anglais. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que je parle français, en fait. Et j'avais beaucoup de remarques, ah, t'es arrivé qu'à 9 ans, mais tu parles bien la langue, etc., etc. Mais tout ça, c'était des signes qui étaient un peu, toujours un peu ambivalents, quoi. Je me disais, mais à la fois, oui, sur quelque part, ça sanctionne les efforts que tu as faits et c'est super. Et en même temps, on ne s'attend toujours pas à ce que tu le parles. Et même aujourd'hui, j'ai du mal à accorder. Et quelque part, on pourrait dire, je n'ai pas du tout une conception genrée de la vie. Et donc, j'ai du mal à faire les accords. Et à partir de ce moment où je me suis dit, on ne s'attend pas à ce que je parle français, à partir du moment où j'ai vu d'autres gens être juste à l'aise à s'exprimer et pas trop, je me suis dit, bah, en fait, foutu pour foutu, j'arriverai jamais à accorder. Donc, j'ai arrêté de faire attention. Donc, un mot sur deux, aujourd'hui, j'accorde au mauvais genre. Mais c'est pas grave. Et c'était quelque chose de très libérateur. Et je raconte tout ça parce que plus tard, je pense dans le monde du travail, où on se rend compte des sujets hommes-femmes et dans l'entrepreneuriat et dans la tech ou dans l'industrie, on se rend compte de ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est exactement les mêmes dynamiques. C'est exactement ces dynamiques de, on est toujours pris dans quelque chose de, ah, je suis pas exactement dans le moule. Donc, j'essaye de faire aussi bien que le moule, j'essaie de m'adapter. Mais en fait, ça marche jamais parce qu'on a toujours ce sentiment à un moment donné, bah, enfin, soyons honnêtes, je ne suis pas un homme. Et je peux pas l'incarner, quoi. Et en fait, c'est ces mêmes dynamiques qui, à un moment donné, on se dit, bah, en fait, je serai jamais l'homme blanc, mâle de 30 ans, etc., de milieu privilégié. Donc, bah, ça sert à rien de faire semblant, quoi. Tout ce que je sais faire, c'est finalement être la meilleure version de moi-même, quoi.
Être soi-même, on n'est jamais aussi puissant, ça c'est sûr. Vous faites des études scientifiques, classe prépa, la prestigieuse école d'ingénieurs des Ponts et Chaussées. Puis en sortant, vous effectuez plusieurs expériences dans l'industrie, en stage. Et ensuite, vous arrivez chez McKinsey, un des plus grands cabinets internationaux de conseil en stratégie. Vous débutez comme consultante, donc un parcours sans faute. Et un jour, vous recevez un mail qui va vous faire dévier de cette ligne droite.
Oui, en effet. Alors, c'est intéressant comment vous racontez mon parcours, parce que je pense que, en effet, tout ce que j'ai fait avant d'arriver dans ce cabinet de conseil, c'était un peu un parcours où il y avait toujours en fait, un bon choix à faire. Et moi, je pense justement par cette dynamique de « Ah, en fait, j'ai besoin toujours de me prouver que je peux être aussi bien que les autres et aussi intégré que possible aussi ». Ça m'a toujours poussé à faire un peu des non-choix. Enfin, moi, j'appelle ça des non-choix. Dans le sens, c'est des bons choix, mais que d'autres font pour
donc,
soi.
Donc, les choix de l'excellence, entre guillemets,
voilà,
c'est ça
exactement.
Vous avez toujours fait ces choix-là et pas les vôtres.
Et alors que j'ai eu plusieurs fois des envies de dévier un petit peu.
Et donc, vous recevez un mail qui vous fait dévier de ce chemin d'excellence.
Donc, en effet, au bout de 2 semaines, j'arrive, je reçois un mail qui est régulièrement envoyé et qui donne un peu la perspective de tous les projets qui vont arriver. Et sur cette liste de projets, je vois un projet qui parle d'éducation au Gabon. Et je me dis, ah, mais tiens, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que...
C'est la première fois que vous vous dites ça ?
Un peu, dans le sens où, comme j'avais l'impression d'avoir été bonne élève jusqu'au bout, d'avoir coché toutes les cases, bah maintenant que je suis dans la bonne boutique, je peux choisir peut-être mon bonbon, quoi. Enfin, et je me dis, de toute façon, il n'y a pas trop d'enjeux, et puis c'est proposé dans la liste, et que c'est un projet aussi bien que les autres. Bon, c'est peut-être pas un projet économique, tu vois, dans le sens secteur privé, un truc classique. Mais je me dis, ah, moi, l'éducation, je trouve ça hyper important. Puis moi, ça a eu un rôle central dans ma vie. J'ai toujours été intéressée par les sujets de développement. Thème, super. Et puis le Gabon, c'était un endroit loin, quoi. Et donc, un peu, qui sent un peu l'aventure. Et je me dis, tiens, je veux faire ça. Et donc, j'essaie à ce moment-là de contacter les gens, de monter sur le projet. Et en fait, je me rends compte que c'est pas si facile, parce que pour monter sur ce projet, en fait, il faut avoir de l'expérience.
Vous n'en avez pas, ça fait deux semaines que vous êtes là.
Il faut connaître les gens, le réseau, que je n'ai pas. Et je me sentais très, très timide, très stressée par les moments où il faut se vendre, quoi. Les entretiens, c'est déjà le bout du monde. Et il faut surtout être disponible le moment où ça s'ouvre. Et je me dis, par contre, j'ai une petite voix qui me dit, mais c'est vraiment ça que tu as envie de faire. Donc, tu ne peux pas tout contrôler. Tu pars quand même pas très bien, mais essaye de faire ce qui est en ton pouvoir, enfin, ce qui était possible pour moi. Et je me force, en fait, à appeler et rappeler et rappeler et juste à me rappeler aux bons souvenirs des personnes. Complètement à harceler. Et à chaque fois, à le faire un peu avec une boule au ventre en me disant, ah, je sais que je l'importune, j'ai plus aucune question à poser sur le projet. J'ai juste une vraie question, c'est est-ce que tu peux me prendre? Et plein de fois, je me suis dit, mais laisse tomber, ça va jamais se faire. Et pendant ce temps-là, tu es en train de faire que des missions très courtes, très opportunistes, quoi. Et peut-être que tu pourrais, en fait, t'investir, enfin, travailler sur un autre sujet et construire quelque chose là-dedans, faire un projet un peu plus long, c'est moins fatigant, parce que les missions courtes sont très fatigantes. Et juste qu'il y a plein d'autres bons choix à faire, quoi. Mais je tiens le coup. Et un an plus tard, on me dit, bah, allez, au bout du 12e appel, on dit, ah oui, c'est toi qui
m'appelle. En fait, il n'en pouvait plus,
Plus. Viens. et je débarque au Gabon.
Mais c'est pas si facile que ça, parce qu'ils ont d'abord choisi Clément Ré, qui va devenir votre cofondateur d'Innovafeed. C'est ça, c'est comme ça que vous le rencontrez.
Exactement. Et en fait, je raconte cette histoire parce qu'on parlait de quel est le moment déclencheur qui a... Mais en fait, le moment, ce n'est pas le moment où on a créé la boîte, on s'est dit, on a eu l'idée. C'est tout ce parcours-là, ce premier projet. Parce que, en effet, je rencontre Clément qui, en fait, débarque le même jour que moi. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait prendre ma place parce qu'il n'y avait qu'une seule place. Et puis, un jour avant la confirmation finale, il vient me voir et me dit, ah, c'est toi qui montes sur le Gabon parce qu'on va parler de ce projet. Moi, j'ai déjà un peu travaillé sur le sujet développement. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Je me dis, en fait, ils l'ont recruté à ma place et ils lui demandent de venir m'annoncer quoi. Enfin, probablement, peut-être, en fait, qui m'ont prise en plus parce qu'ils ont dit, enfin, il faut la prendre parce que sinon elle va pas jamais nous lâcher, quoi. Mais en effet, j'apprends à connaître Clément sur ce projet-là et qui deviendra mon associé chez Innovafeed.
Et il devient votre associé, et ça, c'est un autre moment clé de votre parcours. Quand donc le Gabon, ça se passe extrêmement bien pour vous deux, vous apprenez à mieux vous connaître. De retour en France, vous êtes un jour dans un café. vous refaites le monde et c'est là qu'InnovaFeed commence à naître vraiment.
Ouais. Alors, sachant que je pense que ça naît un peu déjà avant parce qu'on est dans un contexte où on était loin, on était sur un projet qui avait quand même une dimension plus grande que nous, quoi. Il se passait quelque chose de plus grand que nous et c'était un contexte extrêmement propice à refaire le monde. Donc, on avait l'habitude un peu de refaire le monde. Et puis, la conversation a continué en rentrant en France. Puis, à ce moment-là, un jour, on prend un verre ensemble et puis on se dit, bah, est-ce qu'on a envie d'être consultant toute notre vie? On a fait un projet super et commencer un peu à entrevoir d'autres manières de contribuer, quoi, d'être plus actif. Et donc, poursuivant nos habitudes de refaire le monde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On commence à se dire, mais on pourrait peut-être créer une boîte, quoi. Enfin, c'était quelque chose, une manière d'être acteur. Et donc, on se dit, ah, mais une boîte en quoi? Et puis on se dit, à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de gens. Et je pense que ça, c'est très important dans l'entrepreneuriat. On était dans un milieu entouré de gens qui avaient ces idées-là. Enfin, je pense pas que j'étais entrepreneur dans l'âme.
Mais c'était imprégné,
mais voilà,
c'est ça?
C'était entouré de gens qui partaient créer des boîtes à droite, à gauche. Beaucoup dans le digital. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on n'était pas très bon en tous ces sujets de technologie?
Ça vous attirait pas, en fait.
Ça nous attirait pas particulièrement. En revanche, je disais, mais pendant que ce temps où on est en train de créer des mondes virtuels de plus en plus sophistiqués, il y a des enjeux de base, problèmes aussi basiques que manger, en fait, qu'on sait toujours pas résoudre, quoi. Et donc, vient cette discussion, mais en fait, on est de plus en plus sur Terre, plus en plus gens. Les gens cherchent à manger de mieux en mieux. Mais déjà, on sait pas nourrir cette population croissante. Et en plus, avec les enjeux climatiques, en fait, il faut les nourrir de manière beaucoup plus durable. Et donc, quelque chose d'aussi fondamental, on ne sait pas encore le faire.
Oui, parce que l'alimentation, c'est un très, très gros puits pour le
Absolument.
Carbone, c'est ça?
En fait, aujourd'hui, produire des aliments, c'est un tiers de nos émissions. Et si on a envie de maintenir, respecter nos objectifs de moins de 2 degrés, il faut abattre cette empreinte-là de 70%. Donc, on se dit, comment on fait pour nourrir plus en plus de monde, mais en réduisant drastiquement les ressources naturelles qui sont consommées, quoi. Et ça paraissait immense, moins 70%. Et du coup, on commence à s'intéresser à ce sujet. Et puis, je pense qu'on le disait un peu sur le ton de la blague à ce moment-là, on se dit, mais oui, il faut qu'on arrête de manger la viande, il faut qu'on arrête de manger des produits transformés, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut manger? Ah, tiens, on devrait peut-être manger des insectes à la place de viande de vache, quoi. Et on se dit, oui, d'ailleurs, on en mange depuis des millénaires en Afrique, en Asie, on va faire ça. Et petit à petit, je pense que c'est un peu cette excitation du moment de dire, ah, puis presque, c'était pas vraiment sérieux, quoi, mais cette idée-là, mais ça pourrait résoudre plein de choses. Mais en fait, cette petite idée, finalement, c'était entretenir cette conversation. On a commencé aussi, sur les 3-4 prochains mois suivants, à avoir plein de signaux de la vie. Parce qu'on s'intéressait au sujet, donc on en parlait un petit peu autour de nous. Et lui, un jour, il me dit, j'ai rencontré ce copain qui travaille sur les sujets de nutrition animale. Et en fait, il y a un vrai besoin. Nourrir l'homme, c'est une chose, mais en fait, les animaux, c'est la moitié de l'agro-industrie. Et donc, en fait, peut-être donner à manger des insectes aux hommes, gens ne sont pas encore prêts à troquer leur steak contre un steak d'insectes. Mais en fait, ça va être beaucoup plus pertinent pour la volaille, pour le poisson, pour qui c'est l'insecte fait partie du régime alimentaire naturel, quoi.
Tous des petits signaux, et c'est toujours comme ça quand on entreprend quoi que ce soit.
Plein de petits signaux. Et puis, tu as envie que ça marche, quoi. Et donc, du coup, tu les entretiens, tu as une conversation supplémentaire avec le copain en question. Lui, il en a parlé avec ses colocs. Il revient me dire, mais en fait, mes colocs seront très partants. Et donc, c'est comme ça qu'on constitue ce premier groupe. On était 4 à l'origine du projet par ces petites conversations à droite, à gauche, et la mayonnaise prend, quoi.
Et InnovaFeed est donc créé avec l'intention de fournir des nutriments pour l'alimentation animale, puis l'alimentation des plantes, des sols. Mais maintenant, il faut concrétiser, donc créer une usine d'insectes, c'est ça?
Ouais.
Trouver le bon endroit pour s'implanter, convaincre les maires pour vous accueillir. Comment vous faites? Vous préparez des slides? Déjà, ça ne doit pas être évident, parce qu'il y a tout un côté pédagogique aussi.
Ouais.
Comment ça se passe?
Alors, ça se passe... On revient toujours à ce qu'on sait faire, donc des slides. Notre réflexe de créer notre boîte, c'est faire des slides, des decks, des paquets avec plein d'analyses, de chiffres, de rationnels, de machin. Et on va présenter ça à tous les gens qu'on croise. Et effectivement, le moment, je pense, pour moi, le plus marquant, c'est le moment où on doit, en fait, convaincre des maires de nous donner un site industriel sur lequel on peut construire l'usine, quoi. Et on repère très vite plusieurs endroits dans le nord de la France parce que ça faisait beaucoup de sens par rapport au modèle industriel qu'on essaie de créer à ce moment-là. Et on se retrouve dans une réunion avec les maires de Gouzeaucourt et puis le maire de Cambrai, qui était le président aussi de Communauté d'agglomération. Et on fait ce qu'on sait faire, on fait la présentation enfin, très formelle avec nos 40
des
slides,
des chiffres, des camemberts.
Okay. Voilà, des camemberts. Et alors, à la fin de la réunion, je me rappelle, on tirait à quatre épingles, un peu stressé, et le maire nous dit « Bon, je suis pas sûre d'avoir tout compris dans votre histoire d'insectes. Et je suis pas un expert en ce sujet, mais je vois que vous êtes quatre, déjà, vous êtes quatre jeunes. Vous avez l'air d'être très passionnés par ce que vous faites, convaincus, quoi, par ce que vous faites, d'avoir une bonne entente entre vous, enfin, de partager cette conviction. Et puis, je me dis, pour créer ce que vous avez fait, vous avez probablement eu des coups d'opportunité. Enfin, vous avez quelque chose à perdre, quoi, à ce que ça ne marche pas. Et en fait, si vous, des jeunes, qui avez par ailleurs d'autres bonnes opportunités, vous laissez tomber ça, vous êtes convaincus qu'il y a un projet un peu fou, mais vous êtes convaincus et vous voulez mettre votre énergie là-dedans, moi, c'est ça qui me convainc. Et dans ce cas-là, moi, je n'ai pas de raison de ne pas vous suivre.
Donc en fait, il fallait parler au cœur, c'est
et
ça?
Et en fait, je pense qu'il a été beaucoup plus touché par la conviction, la motivation, l'énergie, l'envie qu'on démontrait dans ce projet. Et complètement, enfin, les chiffres tenaient, je pense que c'était confiant sur les chiffres. Mais ouais, c'est cet engagement de parler aux tripes des gens qui ont fait monter à bord. Et ça a été quelque chose d'extrêmement critique pour notre trajectoire, quoi. Quelqu'un veuille bien de nous.
Que quelqu'un veuille de vous, oui, et c'est toujours comme ça. On arrive toujours à convaincre pour des partenariats, des mécénats, des actionnaires. C'est toujours par les tripes, le cœur.
Absolument.
Par contre, les chiffres doivent être là, doivent être cohérents. Mais par contre, c'est notre énergie qui fait que les gens ont envie de
complètement.
Nous soutenir, nous aider.
Et ce projet d'InnovaFeed, c'est parce que je pense qu'on a touché les tripes de l'ensemble de nos partenaires, tous ceux que tu as cités, et aussi parce qu'on a touché aussi les gens. Pour le recrutement, c'est pareil. En fait, les gens, bien sûr, ils s'intéressent au projet, mais les premiers à nous avoir rejoints, c'était soit des connaissances, soit, alors les plus difficiles, c'est les premières personnes qui ne nous connaissaient pas, qui nous rejoignent. À un moment donné, ce qui les convainc d'abandonner tout ce qu'ils faisaient pour nous rejoindre, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi quelque chose qui touche de l'ordre des tripes et ils rejoignent une aventure humaine, en fait.
Et beaucoup de femmes, du coup.
Et alors, pour revenir à ces sujets de femmes, en effet, sur les 10 premières personnes, on dit souvent les femmes, elles n'aiment pas le risque, elles n'aiment pas l'entrepreneuriat, machin. Bah, les 10 premières personnes à nous avoir rejoints sur des postes assez clés, ça toutes étaient, je pense, 89 sur 10, c'était des femmes. Et c'est les femmes qui ont pris les risques de construire ce projet avant tous les autres, quoi. Et je pense parce que Impact, ça parle beaucoup plus que start-up à forte croissance, accélération, performance économique, etc. Ouais. Et même sur la suite, je pense que quand on recrutait les femmes et qu'on les contactait en disant, voilà, on est une entreprise de la tech en forte croissance, est-ce que tu as envie de venir participer à cette aventure? Souvent, on avait des retours, je ne sais pas si c'est vraiment pour moi, etc. Par contre, quand on allait les voir avec la problématique, en fait, c'est ça le problème qu'on essaie de résoudre. On a besoin d'aide. Est-ce que vous voulez nous aider? En fait, réaction complètement différente.
Quand vous expliquez que c'était pour réduire l'empreinte carbone de l'alimentation animale, là, ça marchait.
Complètement, complètement. Le sens avant tout.
Alors justement, comment ça fonctionne, InnovaFeed, en quelques mots, qu'on comprenne bien ce que c'est, parce qu'on a compris que vous étiez des usines d'insectes, les plus grandes usines, avec un insecte notamment qui s'appelle la mouche noire, c'est
ouais,
ça
La mouche soldat noire,
qui est très riche en protéines. Comment vous fonctionnez? Parce que vous avez un modèle très intéressant.
Ouais.
Vous implantez à côté d'entreprises qui peuvent vous fournir les nutriments et l'énergie, pour vraiment diminuer vous-même votre propre empreinte carbone.
Oui, absolument.
Donc, qu'est-ce que ça apporte et comment vous fonctionnez?
Alors, déjà, tout l'intérêt des nutriments à base d'insectes, c'est très riche en protéines, comme vous le dites, et ça nécessite peu de ressources. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de construire un modèle de production qui garantit la meilleure qualité de la protéine, tout en réduisant maximum la consommation de ressources naturelles. Comment on le fait? On choisit un insecte qui lui-même croît très facilement, qui a besoin de peu de ressources, point de vue biologique, et on l'associe avec une technologie qui est très efficiente du point de vue consommation énergétique et un modèle industriel où, en fait, on implante nos usines à côté d'usines de l'agro-industrie. Donc, typiquement, notre usine dans le nord de la France est à côté d'une amidonnerie et on se met à côté pour pouvoir utiliser tous les déchets issus de cette agro-industrie, de la minerie.
Que les insectes vont manger.
Deux types de déchets, des déchets ou des résidus de matières premières. Donc c'est par exemple l'enveloppe du blé, c'est par exemple beaucoup d'eau de process, donc des eaux de nettoyage, quantité de liquides qui sont aujourd'hui séchés pour récupérer la matière restante. On évite ces coûts de séchage parce qu'on a besoin d'eau. Et c'est enfin de l'énergie qu'on appelle l'énergie fatale. Donc c'est l'énergie qui est dissipée. C'est de l'eau chaude à basse température, 60-70 degrés, dont on ne sait pas quoi faire. Et en fait, nous, on va utiliser cette eau chaude, récupérer l'énergie, la chaleur, pour nos propres process. Et donc, en utilisant, du coup, on a très peu de ressources dédiées, et en réutilisant toutes ces formes de déchets, on abat, en fait, notre empreinte carbone de 50 à 80%.
Donc, à l'image de la nature, hein, tout le monde travaille ensemble.
Exactement, on recycle.
Ça s'appelle la colocalisation, c'est ça ?
Donc, on colocalise, on met au même endroit nos sites, des sites d'où on recycle toutes ces matières et l'énergie. Et en effet, tout le but, c'est d'être circulaire, quoi, local et circulaire.
Et les insectes, vous les transformez en farine pour l'alimentation animale, donc les poissons, vous l'avez dit, la volaille, etc. Et les déjections des insectes, elles servent d'engrais pour les plantes.
Exactement, c'est comme les vers de terre.
Rien de perdu.
C'est ça. Donc, il n'y a absolument rien de perdu. Et l'insecte vient nourrir les animaux et les déjections, comme les vers de terre, viennent nourrir le sol.
Juste en un mot, vous avez 10 ans déjà dans votre carnet de commandes qui sont remplis. 1 milliard de chiffre d'affaires déjà prévu.
Oui.
Enfin, déjà signé, quoi.
Oui. Et il faut ce niveau d'engagement pour pouvoir engager aussi tous les investissements qui sont colossaux. Vous avez rappelé les chiffres qui sont nécessaires pour construire cette nouvelle industrie.
Innovafit décolle donc avec une hyper-croissance, 350 personnes en quelques années. Ça doit être vertigineux à vivre.
Ça
a été créé
vite.
En 2017,
ouais.
Première usine dont on parlait avec les maires, ouais. Dont vous parliez, 2017. Au début, ça produisait une tonne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus.
Ouais,
et
absolument.
Puis, autant de personnes qui arrivent d'un coup. Comment vous avez vécu ça? Quand est-ce que vous avez réalisé l'ampleur de ce que vous avez créé, Aude?
Je pense qu'on ne se rend pas compte parce qu'on est pris dans cette course. Enfin, le temps, c'est toujours ce qui manque le plus. Et par contre, je pense que les moments où on se prend un peu de recul, c'est notamment pendant les anniversaires d'Innovafid. On fête tous les ans, depuis bientôt 8 ans, les anniversaires. Et c'est un moment où on essaie de regrouper tout le monde. Et je pense que un moment en particulier, c'est il y a 2-3 ans où on était encore moins de 200, on doit être autour de 150. Donc on retrouve tout le monde dans la salle. Alors chaque année, ça change parce qu'on doublait de taille quasiment chaque année. Et cette année-là, on se retrouve dans la salle. Et je me rends compte qu'il y a plus de gens que je ne connais pas, que de gens que je connais. C'est dans ces moments on est un peu pris de vertige parce qu'on se dit, waouh, en fait ce projet il existe en dehors de moi, quoi. Enfin, il y a cette sensation qu'il a enfin pris une réalité, dans le sens où c'est plus que moi qui essaie d'aller convaincre moi et mes associés, tout le monde de tenir le truc, mais en fait il y a des gens qui nous ont rejoints, qui sont convaincus de ce projet, qui sont convaincus de l'équipe, que ça se passe en dehors de nous, quoi. Et là on a vraiment l'impression d'avoir, je sais pas si c'est réalisé quelque chose, mais d'avoir changé, d'avoir donné une autre dimension à un problème ou à un an, ouais.
Vous-même, vous avez complètement changé de métier. Depuis le moment où vous avez eu l'idée à aujourd'hui gérer 350 ouais. personnes, 3 usines, c'est pas du tout le même métier, la même façon de fonctionner. Il y a dû falloir beaucoup d'adaptation là.
Absolument.
Aussi.
Ouais. On apprend, enfin, tous les 6 mois, en fait, ça change. Donc, au début, c'est on fait quoi. Au début,
C'est-à-dire, vous faisiez quoi?
Pour notre première usine, lorsqu'on l'a démarrée, tout ne démarrait pas en même temps. On n'avait pas tous les automatismes encore en jeu. En fait, on pelletait pour alimenter les insectes dans des immenses bacs. On était avec tout le monde en train de donner des coups de pelle, quoi. Pour faire ça, réparer des machines qui tombent en panne. Enfin, et ensuite, moi, j'ai fait de la R&D, recherche et développement, donc les phases de scale-up, donc tester différents process. On fabrique différemment quand on produit 1 kilo que quand on produit 1 tonne ou quand on produit 100 tonnes.
Donc, on va voir comment ça peut être exponentiel.
Voilà, donc comment reconcevoir la manière de produire, les équipements de production, faire commencer à capturer de plus en plus de données et donc mettre en place toute l'analytique autour de ça. Et puis, gérer des gens, enfin, manager des équipes, ça, je pense qu'on apprend, on doit l'apprendre vite. Et d'ailleurs, je pense que nos métiers, enfin, notre manière de faire évolue dans le sens où, au bout d'un moment, en fait, faire appel aussi à des meilleurs que nous, à des personnes avec plus d'expérience, plus d'expertise, donc à laisser de la place aussi à d'autres équipes. Et justement, quand je me rendais compte que en fait, on pouvait plus connaître tout le monde, il y a aussi cette réinterrogation sur mais quel est du coup mon rôle dans cette organisation et laisser la main à...
Oui, parce que c'est un très grand risque, hein, l'hypercroissance, ouais. Comme vous l'avez vécu. Et vous tenez, vous avancez, donc ça doit être aussi... un grand challenge pour vous au quotidien.
Une organisation à 40 ne se gère pas comme une organisation à 100, à 200, à 300. Et comme ça va très vite, il faut tout le temps se reposer la question et en même temps, trouver l'équilibre, de pas trop tout le temps se poser la question. Enfin, je sais pas si ça, ça fait du sens.
Avancer,
mais
c'est ça.
Voilà, avancer, se remettre en cause, mais pas trop, pour pas que ça ralentisse. Enfin, bon, il y a tout un équilibre à trouver qui, enfin, bon, on apprend toujours.
Là, votre enfance où il a fallu vous réadapter tout le temps très vite,
ça,
vous en connaissez effet, en fait.
Exactement,
ce rythme.
C'est ça, la suradaptabilité. Alors, ça n'a pas que du bon, mais en tout cas, voilà, ça permet d'avancer, de pas trop se noyer, même si c'est pas évident au quotidien.
Alors, j'ai une question qui vous est posée par la communauté et aujourd'hui, c'est Ingrid.
Bonjour Aude. Alors moi, j'ai une question pour toi. C'est quelle est ta plus grande fierté entrepreneuriale? C'est quoi ton petit pas qui est devenu un grand pas? Merci beaucoup.
Ah, une bonne question. Moi, je dirais il y a deux choses. La première, c'est un peu cette histoire que je vous raconte. Une fierté, c'est que toute cette aventure, pour moi, elle part de cette petite déviation. Elle commence pas le jour où on a eu l'idée d'InnovaFeed, mais cette petite déviation, et du coup, c'est l'aboutissement d'un choix très personnel.
Et on ne sait jamais où ça nous emmène,
et
les petites déviations.
On parle souvent de ces projets entrepreneuriaux ou de changement de vie comme des grandes ruptures où il faut sauter dans le vide. Et en fait, pour moi, mon parcours, ça a été une trajectoire et ça part de quelque chose de très personnel. Et donc, toute cette aventure a beaucoup de sens pour moi et j'accueille un peu l'inconnu et tout ce qui s'est passé comme un peu des émanations de ce petit moment où j'ai fait juste un petit pas de côté, quoi. Et ouais, une fierté de voir que ça aboutit à quelque chose de très chouette. Et je dirais que la deuxième fierté, c'est que aujourd'hui, c'est plus que mon idée, quoi, et que ça prend une réalité dans le sens où les gens y croient. Et je pense que c'est plus important que l'ensemble de nos partenaires et surtout les gens de l'entreprise, de l'équipe, croient en ce projet, indépendamment de nous, notre vision initiale, quoi. Et je pense à partir du moment où les gens croient, alors il se passe quelque chose. Et donc, pour moi, je sais pas si je suis très claire, mais il y a 8 ans, quand on parlait d'élever des insectes, alors on n'était pas les premiers, hein, donc on partait pas non plus de zéro, mais les gens quand même, ça faisait soulever des sourcils, quoi.
Et rigoler, non?
Un peu quand même. Ah, tiens, enfin, ok. Voilà. Et aujourd'hui, on croit en ça comme une solution vraiment très sérieuse et très prometteuse. Et ça, pour moi, que autant de personnes soient convaincues, ça, c'est une grande fierté.
Et ça commence toujours par un petit pas, hein,
l'entrepreneuriat. Mais ça commence
toujours par un tout petit pas.
Exactement.
Si vous n'aviez pas harcelé pendant un an.
C'est ça, le sens pour moi de toute cette histoire. C'est, en fait, il y a des grands choix dans la vie, mais encore plus de petits choix. Et souvent, ce qui nous change le plus la vie, c'est des trajectoires qu'on prend à force de petits choix, pas petits choix. Et que moi, dans mon parcours, je pense que ma vie a changé et a commencé à ressembler à quelque chose de très personnel à partir du moment où j'ai commencé à apprendre à faire ces petits choix, à les faire et apprendre à les faire. Et c'est en les faisant qu'on apprend à en faire des plus gros, que, en fait, finalement, on prend plus le contrôle, la maîtrise de nos histoires, quoi.
Parce que c'est très facile de les laisser passer, ces petits pas.
Exactement. Et en fait, c'est très facile de les laisser passer. C'est très facile de suivre des injonctions. C'est très facile de faire le bon choix, entre guillemets, mais pas des choix qui nous sont propres, quoi.
Dans quelques instants, on va écouter la personnalité inspirante que vous avez choisie par Yves Villaginès. Mais juste avant, j'ai une dernière question. Vous avez toujours navigué dans des milieux très masculins, on l'a dit, hein, scientifiques, ingénieurs, industrie, tech. Est-ce que vous voyez que vous étiez une des rares femmes dans ces métiers à chaque fois? Ou pourquoi vous êtes passée à travers les mailles du filet? Et quand est-ce que vous l'avez vu, ça?
Alors, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à le voir. Et parce que, enfin, ce que je vous racontais, au début, je les ai plus omnibulée par le fait que j'étais étrangère que par le fait que j'étais une fille. Et je pense que, ayant toujours été dans ces milieux-là, depuis les études scientifiques, classe préparatoire, etc., on n'arrive pas trop à le voir parce qu'on a dû s'adapter inconsciemment.
C'est tellement présent qu'on ne le questionne pas.
Exactement. Et presque, on se dit aussi. Ah, on voit presque le bon côté des choses, quoi. Ah, mais du coup, j'ai la chance de
d'être
pouvoir
la seule.
Ouais, un peu. Je pense qu'on a toujours été un peu habitués. On se dit, voilà, c'est comme ça. Et puis presque, on se sent plus chanceuse ou privilégiée de faire partie des rares qui sont dans un milieu. Et on se pose que plus tardivement, je pense, la question de « mais en fait, c'est pas normal » ou « enfin, est-ce que c'est normal ?» Et donc ça a commencé au moment où j'ai commencé à travailler. On en parle aussi de ces questions, de plus en plus sensibles. Et puis j'ai eu 2 enfants. Et la maternité, c'est un moment de rupture et de... Et en fait, rien n'est plus pareil et on tombe. J'ai lu ça récemment d'une femme qui s'intéresse beaucoup à ces sujets de féminisme, etc. Elle dit, mais en fait, toute notre vie, toute ma vie, je me suis adaptée. J'ai toujours fait en sorte que ça marche, quoi. Et au moment de devenir mère, je me rends compte que je suis une vieille statistique. Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça. Mais je me rends compte, au moment où je deviens mère, qu'en effet... Je rentre dans toutes ces statistiques, tous ces biais, toutes ces inégalités, quoi.
On peut plus passer à travers les mailles du filet.
On peut plus passer à travers les mailles du filet. Et je pense qu'on met quand même un peu de temps à se rendre compte. Mais quand même, ça vient très vite, quoi. On s'en rend très vite que, il faut s'occuper des enfants, faut porter la charge mentale de ce qui se passe à la maison, de être le parent référent pour tout. Moi, c'est mon compagnon qui amène les enfants à l'école, enfin, mon fils à l'école les matins. Moi, j'amène ma fille. Mais dès qu'il a un bobo, l'école m'appelle moi, alors qu'ils ne me connaissent pas. Enfin, donc, c'est plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, on peut plus éviter le sujet. Et donc, oui, la maternité a été un moment révélateur fort.
Et du coup, vous avez agi pour changer les choses ?
Oui, je pense, mais c'est difficile. Je trouve que c'est là où on se rend compte de l'ampleur systémique du sujet. Il n'y a pas une chose qui fait que fondamentalement, ça change, quoi. Il y a ce qui se passe, évidemment, au sein de la famille, au sein de la répartition de décision de couple, mais il y a aussi tout le reste, quoi, de comment on gère les milieux professionnels, les injonctions qui gouvernent autant les femmes et autant les hommes, quoi. Vis-à-vis de l'école, de des petites choses que de dire, mais appelez le papa, quoi. Enfin, et en fait, c'est pas une chose qui résout, c'est tout ensemble. Donc, on agit de plein de manières différentes. On se rend compte aussi de l'inertie de ce système, du temps que ça met pour réellement changer. Et finalement, on finit par à la fois pousser au changement, mais quand même s'adapter, quoi. Donc évidemment, ça a eu des impacts sur moi, la manière dont je vis mon projet entrepreneurial, dont je rééquilibre les choses. Enfin, je pense que ça a été clair pour moi. Je me rappelle une des premières discussions que j'avais eues avec mes associés au moment où on s'est lancé. Et c'était très théorique dans ma tête, mais je me disais, mais moi, je me vois avec un horizon de 5 ans où je vais pouvoir me donner à 200% sur le projet. Et j'ai envie que pendant ces 5 années-là, en fait, que ça avance, que ça aille vite, que moi, j'ai pas peur de donner énormément mon temps. Parce que je sais que d'ici 5 ans, probablement, je vais vouloir être maman. Et que les enfants, ça va amener une rupture. Et donc, je pense que je me suis toujours préparée à dire, il va falloir que je rééquilibre, pas travailler 14 heures par jour. Mais le moment où c'est arrivé, où de fait, on a les enfants, de fait, le moment où on se dit, maintenant, je vais faire de la place pour mes enfants, et même si l'énergie est infinie, le temps ne l'est pas, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que je prenne plus de recul par rapport à mon projet. On le fait, mais c'est pas évident, en fait. On se rend compte qu'au moment où je l'ai fait, que c'est pas seulement parce que j'ai eu envie de le faire, bien sûr parce que j'ai eu envie de le faire, mais c'est aussi parce qu'il a été nécessaire de le faire, parce que le système ne permet pas autrement, quoi. Ça a été plus difficile que je pense que ce à quoi je m'attendais, sachant que j'étais préparée à ce moment-là, parce que je me rendais compte que...
Il y avait une partie subie.
Il y avait une partie subie, exactement.
Une femme inspirante que vous avez choisie, Aude Agatha Christie. Yves Villaginès va dresser son portrait. Yves, qui est journaliste aux Échos, à toi.
Alors, vous avez choisi une reine du crime qui, après la Bible et Shakespeare, est l'autrice, homme et femme confondus, la plus lue au monde. C'est Elle bien. A vendu plus de 1 milliard d'exemplaires de ses 70 romans, quasiment tous des romans policiers. Alors, je ne vais pas vous présenter Agatha Christie, l'autrice des célèbres Crimes de l'Orient Express, de Mort sur le Nil, des aventures de ses deux héros mythiques, Hercule Poirot et Miss Marple. Non, on va s'intéresser plutôt à la femme. Agatha Christie est née au tournant du siècle dans une famille aisée de Torquay, c'est au sud de Londres, sur les rivages de la Manche. Elle est élevée par sa mère parce que son père américain est décédé alors qu'elle n'avait que 11 ans. C'est la petite dernière d'une famille de 3 enfants, mais elle fréquentera très peu l'école, même si elle a reçu une éducation très bourgeoise. Peu avant la Première Guerre mondiale, elle rencontre un jeune aviateur dont elle tombe follement amoureuse. Il s'appelle Archibald Christie et elle l'épouse en décembre 1914. Pendant la Première Guerre mondiale, elle s'engage comme volontaire dans l'hôpital de Torquay. Elle y suit des cours de pharmacie et décroche même un diplôme dont elle tirera sa science des poisons. C'est pendant la guerre qu'elle écrit aussi son premier roman qui ne sera publié qu'en 1920. Petit aparté, les femmes obtiennent le droit de vote au Royaume-Uni dès 1918.
Et nous, 30 ans plus tard.
Alors, seulement les femmes de plus de 30 ans en 1918. Et les hommes votaient à 21.
Il ne faut pas exagérer
Rappelons-le.
Non plus. Ouais.
Pour Agatha Christie, après la guerre, c'est la vie familiale qui reprend son cours. Elle a une petite fille, Rosalind, en 1919, mais elle continue à écrire. Sa vie va basculer en 1926, l'année où elle publie son quatrième roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, un succès littéraire qui lui apporte la reconnaissance, la notoriété, mais aussi l'argent. C'est la première fois qu'elle gagne autant que son mari. Et ce ne sera pas un détail, retenez-le bien. En 1926, elle perd aussi sa mère, dont elle était très proche, et son mari. Celui-ci lui annonce qu'il veut divorcer, Archibald a une liaison. S'ensuit un épisode rocambolesque. Agatha Christie disparaît, on retrouve sa voiture au bord d'un étang, on organise des battues qui mobilisent 10 000 hommes. La presse en fait les gros titres. 10 jours plus tard, Agatha Christie est retrouvée dans un hôtel au bord de la mer. Elle évoque officiellement une amnésie, une perte de mémoire. Beaucoup, beaucoup douteront de cette version officielle. Elle-même ne donnera jamais d'explication. Agatha Christie se retrouve seule, parent célibataire, et elle devient autrice professionnelle. Elle adopte une discipline d'écriture, elle voyagera seule, notamment au Moyen-Orient, où elle rencontrera son second mari, un archéologue, et là encore Agatha Christie bousculera les conventions parce que cet homme a 14 ans de moins qu'elle. Odgo, qu'est-ce qui vous plaît dans ce parcours d'écrivaine ?
Ah, je trouve que c'est une femme extraordinaire, parce que je trouve que c'est une femme qui a fait beaucoup de pas de côté, justement, qui a trouvé des espaces de liberté, des espaces d'indépendance. Alors moi, ce qui me plaît chez Agatha Christie, déjà, ses romans, je les ai tous lus, et ça a créé un imaginaire formidable. Et je pense, pour revenir à ce sujet autour du genre, vous avez cité Hercule Poirot, vous avez cité Miss Marple, elle écrit aussi plusieurs romans avec un couple de détectives Tommy et Tuppence, et justement c'est vraiment un partenariat très égalitaire, chacun amène un très chouette roman que je recommande. Ensuite, la femme, je trouve qu'elle a eu un parcours extra, dans le sens où qu'elle a tout connu de la vie et tout connu des injonctions de la vie, quoi. Et vous le rappelez très bien, elle vient d'un milieu bourgeois, mais elle a cédé à pas mal de conventions aussi. Elle s'est mariée, elle a une vie de famille, elle a tenu son rôle de maîtresse de maison. Mais à chaque fois, elle a fait un peu des pas de côté, quoi. Elle a écrit, elle n'était pas à l'école comme tout le monde. Je trouve le moment de la manière dont elle a géré la liaison de son mari extrêmement personnel, drôle, quoi, presque, ce côté de je vais pas me laisser faire, en fait, comme toutes les épouses trompées et tous ces petits espaces de vie. Alors, vous avez raison, l'argent a rendu beaucoup de choses possibles, donné une indépendance, et c'est
indispensable.
Clair, indispensable. L'indépendance des femmes est absolument essentielle. Je trouve ce qu'elle a fait de cette indépendance ensuite, le parcours à la fois le plaisir qu'elle a eu d'exercer son métier, en plus, qui lui a garanti l'indépendance, le succès. Mais je trouve qu'elle a complètement embrassé cette deuxième partie de vie, les voyages qu'elle a fait, l'archéologie, tout ce monde qu'elle a très bien décrit dans ses romans. Et je trouve que c'est une personne qui, en tout cas, au travers de ses romans, donne l'impression d'avoir été très lucide, en fait, sur son époque, sur les dynamiques de la société, sur les dynamiques entre les gens. Et elle a su faire ces petits pas de côté qui font que son parcours a été très personnel, et je trouve que ça lui a permis de prendre de la hauteur et de pas trop prendre au sérieux, enfin, pas trop se prendre au sérieux et pas trop prendre la vie au sérieux, quoi, qui est aussi pour moi une source d'inspiration et de liberté.
C'était à la fois une personnalité très conventionnelle et très non conventionnelle. Et il y a un détail qu'on connaît peu, c'est que c'était quelqu'un de très timide. Elle n'a jamais accordé d'interview à la télévision ni à la radio. C'est quand même incroyable.
Non, mais les femmes et la visibilité. Alors, on sait que c'est un vrai sujet. Hein.
Ça, je ne savais pas. Mais voilà, j'aimais beaucoup la manière dont elle a réussi à faire son espace. dans le monde qui était ce qu'il était dans son époque, quoi.
Et à vivre de son activité, hein. C'est incroyable. De tout ce que vous avez vécu, Aude, de tous les petits pas, les grands pas, de toutes les montagnes que vous avez gravies, qu'est-ce que vous retenez, que vous pouvez nous partager? Quels sont les apprentissages phares qui sont devenus finalement des forces pour vous, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer, comme en fait un socle sur lequel vous savez que vous pouvez compter?
Je pense que la première chose, c'est... trouver un peu ces espaces de liberté et que dans les endroits ou dans les moments de vie, dans les milieux qui ne nous attendent pas, et j'en ai connu un certain nombre dans mon enfance, de voir les choses avec un angle un tout petit peu différent, faire un pas de côté et se dire peut-être que être outsider est un sentiment désagréable, mais que en fait ça donne une liberté beaucoup plus grande que ceux qui sont peut-être très pris dans le système,
dans un carcan.
Et je le vois avec souvent aussi mes collègues hommes, quoi, en étant exposés sur les mêmes situations. Bien sûr, on dit t'as peut-être moins ta place, enfin, ou en tout cas la sensation d'avoir moins la place dans un contexte. Mais en fait, la vie est pas plus facile pour eux non plus d'être.
On est moins emprisonné.
On est moins emprisonné.
Puisqu'on est moins dedans.
Exactement. Donc exercer cette liberté. Voir ça comme une opportunité.
Et pas que les femmes, hein, toutes celles et ceux qui ont des spécificités
exactement.
Et qui ne se reconnaissent pas dans le moule dominant.
Tous ceux qui ne sont pas normaux, enfin qui sont, voilà, exactement, tous ceux qui ne sont pas dans le moule dominant.
Finalement,
en fait,
c'est une grande liberté.
Finalement, ça peut être une source de grande liberté. Et je pense que la deuxième chose, ce que je retiens aussi de mon parcours, c'est en fait, ce qui fait la différence, ce qui donne la saveur, c'est quand même beaucoup les rencontres humaines, quoi. C'est l'aventure humaine, c'est l'équipe, c'est les gens qu'on croise, beaucoup plus que les choses qu'on fait. Et quelque part, je me dis, avec mon équipe de cofondateurs, bien sûr, notre projet, c'est ça qui nous a emmenés ensemble. Mais je pense, avec cette équipe-là, on aurait pu faire plein d'autres choses, quoi. Et qu'à choisir entre un beau sujet et une belle équipe, 100% choisir la belle équipe. On arrivera toujours à faire un truc bien.
C'est sûr, on est capable de tout quand on est ensemble et alignés. Je vais vous poser quelques questions pour lesquelles il faudra répondre au tac au tac. Si vous aviez 10 ans de moins aujourd'hui.
Alors, je pense que je ferais plus de sport en espérant que ça devienne une habitude. Parce que c'est difficile quand on n'est pas sportive, à mon âge, de reprendre.
Est-ce que vous avez une discipline de vie, justement?
Oui, depuis de peu, j'essaie de cuisiner plus, de manger moins de produits transformés, moins de choses à emporter, donc faire soi-même.
Et à quoi dites-vous non désormais? Ou à quoi êtes-vous fière d'avoir dit non?
Alors, je ne sais pas si je suis fière, mais je suis soulagée d'avoir dit non. C'est essayer d'entretenir une présence sur les réseaux sociaux. Je suis très mauvaise à ça. Je trouve ça extrêmement difficile de devoir réagir à tous les événements auxquels j'ai été, de dire quelque chose de concis, intéressant, utile. Et c'est quelque chose qui me prenait énormément d'énergie, beaucoup de culpabilité. J'étais toujours en retard et maintenant, je le fais plus.
Votre pire moment de solitude professionnelle?
Je pense que c'est les moments où ça marche pas bien avec quelqu'un de l'équipe, justement, et il faut prendre des décisions difficiles. Et je pense que c'est pas qu'un seul moment, mais c'est des moments où, en fait, on se pose tout le temps des questions de si ça marche pas, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le contexte, est-ce que c'est la formation. Et ça peut être assez douloureux. Il y a jamais de vraie bonne réponse. Et pourtant, il faut prendre une décision, parce que surtout quand l'organisation devient très grande et que ça peut avoir des impacts sur plein de gens. Donc, les décisions humaines, j'ai toujours pas le secret.
Ouais, c'est très dur. Que souhaiteriez-vous absolument faire dans votre vie?
J'aimerais avoir un jardin.
Et si vous étiez ou si vous aviez un pouvoir magique?
Ralentir le temps.
Moi aussi. La musique qui vous donne de l'énergie?
Moi, j'aime beaucoup la musique de Simon & Garfunkel, que j'ai beaucoup écouté en voyage, donc ça me ramène à des moments très heureuses.
Une passion, Aude?
Agatha Christie. Bon, j'ai lu, elle en a écrit plus de 75, je pense. Elle a dû écrire au moins 80, 90. Et je les ai tous lus et je les relis encore avec beaucoup de plaisir.
Votre prochaine action pour plus d'égalité?
Alors, ce que je fais et que j'essaie de continuer à faire, c'est dans tous mes recrutements, surtout des recrutements sur des postes clés, systématiquement faire une chasse exclusivement féminine avant d'élargir pour être sûre de capturer tous les talents femmes, d'avoir en entrée au moins de la sélection tout le maximum de candidates femmes. Et ça, c'est quelque chose, les cabinets de choix n'ont pas forcément le réflexe. Puis c'est beaucoup plus facile, en fait, de trouver des profils hommes. Donc j'essaie d'un peu de forcer le système pour être sûr d'en avoir le maximum.
Oui, ça, ça marche en plus hein, quand on le fait. Votre mot-clé, ça prend plus de temps, mais ça marche. Votre mot-clé, Aude, celui qui vous guide.
En fait, je pense que ce n'est pas très original, mais c'est se connaître soi-même. Parce que je me rends compte que les choix qui m'ont rendue la plus heureuse, c'est des choix qui sont très personnels et on vit dans un monde qui est rempli d'injonctions. Et c'est très difficile de savoir si on agit pour soi ou pour d'autres. Et donc, se connaître, c'est très important.
Merci Aude Guo, c'est vraiment ce que je retiens de notre échange. Hein. C'est qu'à la fois, quand on n'est pas tout à fait dans la norme, pas tout à fait dans les codes, quand on a des spécificités, ben finalement, c'est notre plus grande force si on accepte de l'avoir comme ça. Et puis, c'est aussi la force des petits pas. C'est jamais un grand saut dans le vide, mais c'est petit pas par petit pas qu'on peut changer notre vie. Merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci à Yves Villaginès pour le portrait d'Agatha Christie. Merci à Ariane Godefroy, Camille Codor, Marie Jaworski. Merci aussi à Zaya Cassel des Échos pour l'organisation. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Le fameux premier petit pas. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.